Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond.
Bonjour Monsieur Soral. Quoi que l'on dise de vous à l'avenir, vous avez éclairé nos consciences à jamais, je tenais à vous le dire. Ceci dit, ma question est la suivante. Que pensez-vous du travail de Zoé Sagan? Merci, au revoir.
Alors Zoé Sagan, ben moi je ne le connais, puisque c'est un homme, sous pseudo, qu'à travers Xavier Poussard de Faits et Documents, puisque je sais qu'ils ont, sur l'affaire Brigitte Macron, constitué un tandem assez performant et assez intéressant. Et donc oui, j'aime bien, je pense que c'est un type qui a compris l'usage subversif qu'on pouvait faire des réseaux sociaux, et il sait écrire, il a pas ce côté brutal et vulgaire de la dissidence de l'ancienne époque, à laquelle j'appartiens d'ailleurs aussi, et donc j'ai rien de mal à en dire, et je trouve que son tandem avec Poussard fonctionne très bien, notamment sur X, là. Donc, je suis ce qu'il fait et je l'incite à continuer.
Bonjour. Voilà, aujourd'hui, j'avais une question concernant le mouvement Skinhead. J'ai vu il y a à peu près un mois sur le site d'Égalité et Réconciliation un reportage sur le mouvement Skinhead. Et je voulais savoir si vous aviez eu des contacts ou fréquenté ces gens, notamment dans les années 80, une époque où le mouvement avait quand même une certaine importance, et notamment à Paris. Voilà, donc c'était le sens de ma question. Je voulais avoir votre avis sur le mouvement Skinhead. Merci.
Alors, pour répondre déjà historiquement, moi j'étais au HAL en 76-78. Je suis un peu plus vieux que notamment que Serge Ayoub. Et donc, quand j'étais au HAL, puisqu'après on a bougé vers Bastille, il n'y avait pas encore les Skinheads. Je crois qu'ils sont arrivés un peu après, autour de la Fontaine des Innocents. Donc moi, je ne les ai pas du tout connus à l'époque. D'autant plus que moi, j'étais dans la mouvance New Wave, qui n'avait rien à voir, qui était plutôt musique, culture et mode, et pas très politique. Hein. Et donc moi, j'ai connu le mouvement Skinhead sur le tard à travers Serge Ayoub, dont j'ai édité un livre sur le solidarisme, un livre qui mérite d'être lu. Serge Ayoub est plus cultivé et plus intéressant quand on discute avec lui de sujets politiques sérieux, peut-être que pour ceux qui s'arrêtent à son palmarès de bad skin. Et puis j'avais aussi monté à l'époque, au milieu des années 2000, quand je m'étais rapproché du Front National, un bar associatif avec lui qui s'appelait Le Local, dont le but était de rapprocher ce qui restait des skinheads aussi avec les, on va dire, les Français de branche patriotes. Ça se passait d'ailleurs plutôt bien. Et pour ceux qui s'intéressent à l'origine du mouvement Skinhead, ce n'était pas si loin des origines, en réalité, du mouvement. Hein. Depuis, ben, on s'est un peu perdu de vue. Et moi, je vous dis, je m'attaque jamais à ce genre de mouvement parce que j'ai un certain respect pour les mouvements de marginaux et qui, en général, en prennent relativement plein la gueule et ont, après une adolescence tourmentée, un âge adulte difficile à assumer. Donc, c'est pas du tout proche de moi, mais je n'en pense rien de particulier. Et je vous dis, ma culture skinhead se résume à la fréquentation momentanée de Serge Ayoub, non pas dans les années 80, mais plutôt dans les années 2000. Voilà.
Bonjour Monsieur Soral, question banale, mais j'aimerais avoir votre avis à ce sujet, d'autant que j'ai pas souvenance de vous avoir entendu vous prononcer là-dessus un jour. Êtes-vous pour ou contre l'avortement? Si oui, pourquoi? Sinon, j'aimerais également savoir pourquoi. Et troisième hypothèse, est-ce que vous seriez dans un entre-deux? Et qui vous autoriseriez à avorter et qui vous n'autoriseriez pas? Si jamais c'était traité au cas par cas. Voilà, je vous remercie par avance de votre réponse. Au revoir.
Alors là, on est face à un garçon qui visiblement ne lit pas, et en tout cas ne lit pas mes livres, parce que s'il y a un sujet que j'ai traité par écrit et en profondeur, c'est bien le sujet de l'avortement, et plus précisément de la banalisation de l'avortement et de la transformation progressive de la loi en autre chose. C'est d'ailleurs ce qui avait fait à l'époque que Thierry Ardisson m'invitait pour parler de mon abécédaire, voire de mes abécédaires à, à sa grande émission, à sa messe médiatique du samedi soir. Hein. Tout le monde en parle. Donc, je suis étonné que cette personne là, me dise que je n'ai jamais abordé le sujet. Ça veut dire que vraiment, les gens ne lisent pas et sont quand même relativement dans l'éphémère télévisuel. Donc, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé. Et comment je l'ai abordé? J'ai dit qu'il y avait deux conceptions de l'avortement. Une conception, on va dire, qui a une dimension morale et sociale qui consiste à aider les femmes en difficulté sur des sujets graves comme le viol, les enfants dont on détecte qu'ils sont anormaux. Et puis, il y a l'avortement pour lequel je suis résolument un opposé, qui est l'avortement de confort d'un féminisme assez répugnant, basé sur le slogan « Mon corps m'appartient », et qui en fait se résume de plus en plus, et de façon presque évidente aujourd'hui, à une banalisation de l'infanticide et à une apologie de l'égoïsme consommateur de la femme comme animal sexuel, au détriment de ce qui fait quand même tout le respect de la femme à travers l'histoire, qui s'appelle la mère. Hein, voilà. Donc, j'ai pas une position religieuse sur l'avortement, j'ai une position, on va dire, politique, sociale et morale. Je ne suis pas absolument contre l'avortement s'il est bien encadré et qu'il est pratiqué pour des raisons, je vous dis, de drames humains importants. Mais en revanche, je suis scandalisé aujourd'hui par la dérive dans laquelle est tombée cette pratique qui, pratiquement aujourd'hui, permet à des femmes de se débarrasser de l'enfant qu'elles ont dans le ventre, pratiquement jusqu'à la naissance. Et ce qui est marrant, c'est que ces mêmes personnes qui sont en général pour l'avortement sont contre la peine de mort, hein, c'est-à-dire pour sauver la vie de criminels endurcis, mais par contre, pour assassiner des futurs bébés innocents, ça pose aucun problème. Et ça, c'est vraiment un des marqueurs du dysfonctionnement de la société occidentale actuelle, qui va très très mal sur le plan moral, et surtout du rôle absolument délétère que joue le féminisme, qui n'est plus du tout aujourd'hui, on veut dire, un mouvement d'égalité sociale porté par les femmes du travail, mais vraiment un mouvement de bourgeoises de gauche écervelées, très inquiétantes, et qui, à mon avis, participe de cette dérive qui nous amène aujourd'hui au LGBTisme.
Bonsoir. Nordal Lelandais se tape un max de gonzesses en prison. Il a un fan club de groupies, un peu comme tous les tueurs en série ou les tueurs tout court, qui sont médiatisés. Comment vous expliquez ce phénomène? Et j'aurais une deuxième question qui est liée à la première. Ces femmes sont-elles folles? Merci à vous.
Je crois que ce phénomène qui est assez courant et très choquant est révélateur de ce qu'il y a au fond de l'affectivité féminine en réalité, qui fait que l'épanouissement de la femme est profondément lié à l'idée d'être sous emprise d'un homme, c'est-à-dire séduite, amoureuse. Et en fait, ces femmes sont simplement, je dirais, la figure extrême de ce fond assez universel de l'affectivité féminine, qui fait que la femme est d'autant plus amoureuse et même a d'autant plus de plaisir et s'épanouit d'autant plus qu'elle est sous l'emprise d'un homme. Et donc ces femmes sont plutôt, ouais, la version extrême en fait de la femme, qui fait que elles sont fascinées et pour aimer elles ont besoin de se sentir face à un homme qui les dépasse de partout et qui quelque part a une dimension qui est dans l'idée de l'emprise, de dominateur total, donc avec une dimension de violence, une dimension inquiétante, voire répugnante. Et c'est ce phénomène assez répété, finalement, est révélateur, je dirais, du fond affectif qui est au fond d'une certaine manière de toute femme, avec un dosage plus ou moins prononcé, et surtout du mensonge et du délire actuel du mouvement MeToo, qui consiste à dire finalement que la situation naturelle de la femme, c'est d'échapper totalement à la séduction, de s'opposer totalement à la séduction, et qui considère tout moment où elle tombe dans ce dont elle rêve profondément, qu'elle est amoureuse, est un moment qui sera considéré, non pas comme pathologique d'ailleurs, mais un mouvement de manipulation dont elles ne sont pas responsables et qui mérite châtiment de celui qui parfois l'a même initié à son insu. Donc oui, c'est ce phénomène lelandais là est révélateur, en fait, je dirais, de quelque chose de profondément sombre et inquiétant dans l'affectivité féminine et du mensonge très profond que constitue ce mouvement superficiel mensonger qui s'appelle MeToo, balance ton porc, qui en fait est une négation je dirais, de la nature féminine.
Oui, bonjour Monsieur Soral. Une question qui concerne Francis Cousin. Alors que il me semble que vous avez des positions assez proches, l'un et l'autre, j'ai par ailleurs l'impression que vous n'êtes pas forcément dans son sillage ou d'accord avec lui. Pourriez-vous expliciter vos différences ? Merci, au revoir.
Alors oui, Francis Cousin est un marxien, un marxiste et un marxien comme moi. C'est même un érudit de la, non pas de la pensée marxiste, mais en tout cas des écrits marxistes. Je crois qu'il connaît beaucoup mieux le Capital que moi dans les détails. Mais étrangement, il est aussi un debordien, c'est-à-dire un situationniste et un debordien. Et moi, je me situe là-dessus, sur ce positionnement un peu en porte-à-faux, parce que je me sens plus proche de la pensée de Michel Kluskar et de ce que pensait Michel Kluskar de Debord, qui pensait que Debord n'était pas marxiste. Hein. Puisque, en fait, si je cite à peu près Kluskar, le fondement du marxisme, c'est l'historicité absolue. Or, dans la pensée de Debord, comme dans celle de Cousin, il y a l'idée de ce qu'on appelle l'antéprédicatif, c'est-à-dire qu'il y aurait un moment avant l'histoire qui serait un moment, je dirais, de communisme primitif idéal, et qu'après, toute l'épopée historique serait une lente dégénérescence et un lent éloignement de ce moment initial relativement parfait et à retrouver. Ce qui fait en fait de la pensée de Bordienne et de Cousin, non pas une pensée progressiste qui pense qu'on va du moins vers le plus et que l'épopée historique et l'épopée progressiste, là c'est la pensée marxiste et hegeliano-marxiste, mais plutôt que ça rapprocherait Cousin étrangement de la pensée traditionnaliste qui parle en fait d'une chute vers l'âge sombre et le Kali Yuga, à part que lui il l'explique par le fétichisme de la valeur et ses concept très performant d'ailleurs de Marx, mais en fait c'est toute l'ambiguïté, je dirais, du debordisme cousinien, c'est qu'en fait d'un côté il est marxiste et de l'autre il est très très opposé au marxiste, juste sur ses fondamentaux, qui est que dans le marxisme le transcendantal c'est l'histoire et que l'histoire doit se lire comme un lent progrès. Hein, et donc, comment dirais-je, Cousin fait la lecture inverse. Pour lui, l'histoire est une lente déchéance d'un communisme primitif d'avant le fétichisme de la valeur et de la société de classe, et toute cette histoire est une lente chute qui est en plus monodéterminée. Toute la chute est toujours liée à cet unique facteur qui surplombe tout et qui surdétermine tout, qui est la réification, si on veut employer un autre mot. Et ça me paraît très monodéterministe et assez... je dirais assez exagéré, assez faux, comme tout ce qui est monodéterministe, et surtout très éloigné, en fait, finalement, du marxisme. C'est pour ça qu'il y a cette double dimension chez Cousin, c'est de citer Marx en érudit de façon assez permanente, et en même temps, dans sa vision du monde, d'être un traditionnaliste matérialiste très éloigné, en fait, des fondamentaux du marxisme et de l'hegeliano-marxisme. Bon, là, ça, c'est une discussion intéressante pour les gens qui maîtrisent un peu ces sujets qui ont une formation en philosophie. Et sinon, par ailleurs, j'aime bien le bonhomme. Je trouve ses analyses assez performantes et surtout, il est toujours bien positionné politiquement sur tous les sujets. C'est ça qui fait que je le respecte bien, c'est que parfois, par des voies un peu différentes, sur ses positionnements politiques, il est toujours du bon côté, c'est-à-dire du mien. C'est-à-dire... voilà comme je sais pas comment je terminerai.
Oui, bonjour, salutations. J'avais une question concernant vos amis de jeunesse. Je sais que vous avez eu un parcours atypique et très riche en expérience. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez conservé des amitiés avec vos amis de jeunesse, les amis que vous avez rencontrés lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous êtes traîné au hall, les amis des galeries de peinture, de drague. Voilà, je voulais savoir si vous aviez conservé... une des amitiés avec vos anciens amis de jeunesse. Voilà, bon courage à vous.
Oui, alors là, si c'est simple, j'ai connu à peu près tout le monde de cette génération, à partir effectivement de l'époque punk, after punk, des Halles, parce qu'on était un petit groupe et on était l'avant-garde. Et c'est simple, tous les gens que j'ai connus qui ont fait carrière dans les médias, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait carrière dans les médias, puisque c'était souvent des communicants et des branchés, eh ben, on a fini par se perdre. Et ils m'ont souvent lâché à cause de mon évolution et de mes positions. Hein, bah, vous le savez, Ardisson, il y a eu Bec Bédé, Liberati, d'autres moins connus comme Dieutre qui m'ont tourné le dos. En revanche, ceux qui sont restés, je dirais, des branchés des années 80, mais qui n'ont pas fait carrière dans les médias, eux ont pu rester assez amis avec moi, comme par exemple Jenny Belair, pour ceux qui connaissent, avec qui je ne suis pas fâché, même Serge Kruger, et puis sinon d'autres de la génération d'avant aussi, avec qui je suis resté, bon, même si on ne se fréquente plus pour des raisons d'histoire personnelle, avec qui je n'ai jamais été fâché, qui ne m'ont jamais renié, ni tourné le dos, ni sali, comme Jean Rouzeau, ou Jacques Fivel, ou Pierre Fournier, pour ceux qui connaissent ces gens et ces noms. Donc en fait, la séparation se fait là. Ceux de l'épopée des branchés années 80 qui ont fait carrière dans les médias m'ont tourné le dos pour ne, sans doute d'ailleurs pour rester sur la vague, quoi. Je cite pas tous les noms, hein, mais et puis par contre, ceux qui ont eu un autre parcours ne se sont pas sentis obligés de me tourner le dos, de me battre froid ou de me salir. Et il nous arrive de temps en temps d'échanger de loin, au nom d'une certaine nostalgie, sachant que nous avons tous été à un moment donné une petite avant-garde pleine d'espoir, censée incarner l'avenir, au virage des années, des années 70 et des années 80, un endroit très précis qui s'appelait les Halles, avec quelques lieux comme le Palace, le Bain-Douche, le Musée Beaubourg aussi, et puis des tas de petits endroits que je ne citerai pas là. Donc voilà, la coupure se fait comme ça, entre ceux qui ont été obligés de me tourner le dos pour continuer à faire carrière dans les médias et ceux qui ne se sont pas sentis obligés de le faire et qui ont plutôt le souvenir du garçon charmant que j'étais quand j'avais 20 ans. Voilà.
Bonjour Monsieur Soral, je voulais savoir si vous connaissiez Carl Gustav Jung, son œuvre, sa pensée, un peu tout... Si vous l'avez lu, quoi. Ce que vous en pensez. Voilà, ça revient quand même pas mal à la mode et c'est intéressant d'ailleurs. Voilà, merci Monsieur Soral, notamment pour toutes vos analyses politiques qui sont toujours très justes. Allez, courage à vous.
Oui, c'est un sujet intéressant parce que à l'époque, puisque moi je commence à avoir un certain âge, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 80, Freud occupait vraiment toute la place et c'était au détriment de Jung, c'est-à-dire Jung était considéré comme un traître à la psychanalyse, un type un peu suspect, et il a un retour en grâce progressif à partir du déclin du freudisme, qui aujourd'hui est au taux plus bas. Hein. Et je me suis intéressé évidemment à Jung, puisqu'il y avait deux idées fondamentales qui s'opposaient, je dirais, à l'individualisme libidinal de Freud, je l'analyse exprès de manière un peu marxiste, c'était l'idée d'inconscient collectif et l'idée d'archétype. C'est-à-dire qu'il y a une dimension collective chez Jung qu'il n'y a pas chez Freud. Et d'un point de vue de l'analyse politique, ça fait une grosse différence. Après ça, il y a des dimensions chez Jung qui sont compliquées pour moi, parce qu'il y a une dimension mystique, il y a une dimension un peu ésotérique, c'est un penseur assez complexe, mais j'estime aujourd'hui que la psychanalyse, finalement, ne mérite pas d'étouffer la discipline de Jung qui s'appelle, je crois, la psychologie analytique. C'est marrant parce qu'il y a d'un côté la psychologie analytique, de l'autre la psychanalyse, c'est pratiquement les mêmes termes. Et je me dis qu'on assiste peut-être aujourd'hui à une revanche posthume de Jung sur Freud, notamment... sur ces deux fondamentaux qui sont en fait une approche plus collective de celle de Freud, qui est quand même profondément de l'individualisme libidinal, qui sont ces deux piliers qui sont l'idée d'archétype et l'idée d'inconscient collectif.
Oui, bonjour Alain Soral, c'est Dominique, je suis très fier de pouvoir vous poser une question, j'espère que vous y répondrez, c'est au sujet de ce qui se passe en Palestine, entre Palestiniens et Israéliens depuis plusieurs décennies maintenant, et quand je pousse la réflexion à son paroxysme, je ne vois pas d'issue positive pour les pauvres Palestiniens qui vont vraisemblablement finir par se faire exterminer dans l'indifférence générale. Donc, en essayant de réfléchir à comment pourrait évoluer favorablement la situation pour eux, je me dis, est-ce qu'au bout du bout, la solution ne serait pas pour eux que les autorités palestiniennes acceptent de faire une croix sur l'autonomie de la Palestine, c'est-à-dire de devenir israélien. Donc ce serait bien sûr pas renier, ce serait une espèce de manœuvre pour finir par reprendre possession de leurs terres, mais par la ruse, et non pas par la guerre et les armes, vous voyez. Prendre les Israéliens à leur propre piège. Vous êtes un pays démocratique? Ok, donnez-nous la nationalité israélienne. Et comme ils seront plus nombreux, ils finiront par prendre le pouvoir, un peu comme ça s'est passé en Afrique du Sud, où les Noirs ont fini par reprendre le pouvoir. Donc voilà, est-ce que ça vous paraît être une bonne idée? Est-ce que ça vous paraît possible? Moi, quand j'en parle autour de moi, les gens posent des cris d'horrification, donc je ne sais pas. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Bah, je trouve que c'est une vision très pessimiste du sujet. Moi, je ne crois pas du tout que les Palestiniens, que Israël arrivera au bout de son projet, hein, qui est un projet biblique, on le voit très bien, puisque même Ehud Barak aujourd'hui nous dit bien que Netanyahou fait le ménage pour hâter la venue du Messie et qu'on est face à des psychopathes religieux, des religieux psychopathes. Je pense qu'au contraire, à la faveur de la souffrance et du martyre des Palestiniens, il y a quand même une conscience universelle qui se lève contre l'abjection sioniste, et qu'en fait, on arrive peut-être, comme le dit aussi Xavier Poussard, à la fin du siècle juif, et que donc le martyr palestinien va nous aider prochainement à nous libérer, je pense, au niveau mondial de cette dictature sioniste qui s'accomplit de manière sourde et perverse depuis 1945 en instrumentalisant ce qu'ils ont eux-mêmes appelé assez récemment d'ailleurs la Shoah. Et je pense que cette idée de se faire israélien pour finir par gagner par la ruse, d'abord c'est une stratégie qui est assez laide et qui est celle justement du camp d'en face, qui est impossible à plusieurs titres. D'abord parce qu'il faut avoir une sale mentalité pour accepter ça, et que les Palestiniens sont des êtres normaux qui n'acceptent pas ça. D'ailleurs, comme les Algériens n'ont pas accepté non plus de se fondre dans la francité pour essayer de devenir dominant. Donc, je n'y crois pas. En plus, la façon dont l'État sioniste fonctionne fait que un Palestinien ne peut jamais atteindre le niveau de citoyenneté d'un juif, hein, c'est fait pour, donc c'est pas possible en l'état, et c'est de moins en moins possible d'ailleurs, hein, on voit pas pourquoi à un moment donné le pouvoir israélien tel qu'il est favoriserait l'égalité citoyenne pour que les Palestiniens deviennent des citoyens majoritaires par le ventre. Donc déjà ce n'est pas possible, et c'est une stratégie qui est à la fois impossible et laide, et qui ne correspond pas, je dirais, à l'âme des peuples en révolte, quoi. Je pense que accepter l'humiliation, le mensonge, la soumission pour pouvoir finir par prendre le pouvoir par la ruse, c'est quelque chose qui ne correspond pas à une belle âme et à un peuple respectable. C'est d'ailleurs toute la différence entre la façon dont les musulmans algériens et les juifs algériens ont abordé la question qui a abouti pour les uns au décret Crémieux et pour les autres à l'indigénat. Voyez, donc il y a trois raisons de le refuser. D'abord parce que je ne crois pas à la victoire finale du Dajjal. Je n'y crois pas. Je crois à la victoire finale du bien. Hein. Deuxièmement, l'État israélien est conçu de telle façon que jamais les Palestiniens ne pourront avoir l'égalité citoyenne, hein, sauf s'ils l'obtiennent par la force, d'une certaine manière. Et troisièmement, cette stratégie de prise de pouvoir par le mensonge et la ruse est quelque chose qui me répugne. Et je ne pense pas que la fin justifie les moyens. Je pense que la fin et les moyens ont un rapport, comment dirais-je, d'identité. Et quand les moyens sont mauvais, la fin ne peut pas être belle. Hein, voilà. Donc ça fait trois raisons de m'inscrire en faux par rapport à cette analyse et à cette proposition, ce qui d'ailleurs ne déclenche chez moi aucune hostilité envers la personne qui s'est exprimée, puisque je vois bien qu'in fine, ce qu'il aimerait, c'est le bien des Palestiniens et la victoire finale des Palestiniens sur ceux qui leur ont volé leur terre et qui ne dominent que par le vol et le mensonge, ce qui sont les deux mamelles fondamentales du judaïsme. C'est-à-dire un mensonge qui s'appelle le peuple élu, qui justifie un vol qui s'appelle la terre promise, car je rappelle, la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. C'est une terre qui, dès le départ, est volée à d'autres. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette idée de « cette terre était à nous comme si c'était la transmission de la terre des ancêtres ». Dès le départ, cette terre est promise à des gens à qui elle n'est pas, et donc volée à ceux à qui elle était et à ceux qui la travaillaient. Hein. Voilà. Donc c'est important de profiter de ce petit moment sur le sujet pour revenir à ses fondamentaux. Hein. Voilà, la terre promise n'est pas la terre des ancêtres, et c'est un vol justifié par un mensonge qui est l'idée du peuple élu, c'est-à-dire que Dieu vous aurait choisi parmi les autres et vous aurait offert en cadeau une terre que vous avez le droit d'aller voler à d'autres par la violence. C'est exactement la réalité d'Israël, c'est aussi les deux mamelles profondes du judaïsme, et c'est sans doute pour ça que le Christ est venu et que moi je suis chrétien et que je me sens très très opposé à tout ce dont on vient de parler.
Oui, bonjour Alain Soral. Moi, j'ai une petite question. Comment, quelle est votre technique pour marier nostalgie et action du quotidien ? Voilà, je me noie littéralement dans la nostalgie, dans la douce nostalgie, comme un nuage. Et j'aimerais m'en sortir. J'aimerais me dépêtrer de cette guimauve nostalgique. Voilà. Et force à vous. Au plaisir.
Voilà, ma réponse va être très simple, puisque moi-même, je lutte contre la nostalgie et je vis même dans une certaine nostalgie au niveau de la musique, par exemple, et même de mes goûts en cinéma. Mais pour lutter contre la nostalgie, il y a que deux choses à faire. C'est l'action et l'action collective, qui d'ailleurs est une seule chose. Et ça veut dire, en gros, adhérer à égalité et réconciliation, c'est-à-dire fréquenter des gens qui ont la même vision que vous, et qui, vous propose de participer à une activité collective, ce qui fait que vous sortez de la solitude et de quelque chose qui s'approche de la dépression, puisque la nostalgie va assez bien avec la dépression. Donc c'est simple, pour lutter contre la nostalgie, il n'y a qu'un seul remède, l'action collective, et ça s'appelle le militantisme, et chez nous ça s'appelle rejoindre une section égalité-réconciliation, ce qui veut dire partager une aventure avec d'autres personnes qui ont la même vision que vous et qui vous sortent de cette pente dépressive de la nostalgie. Je n'ai aucun autre conseil à donner, c'est ce que j'ai fait moi-même, et vous verrez, ça fonctionne assez bien.
Oui, bonjour Monsieur Soral. Je voulais avoir votre avis sur le chanteur Michel Sardou, sur le plan musical, mais surtout sur le plan politique, puisqu'il a longtemps incarné une forme de politiquement incorrect dans la chanson, en parlant de la peine de mort, du féminisme, etc., tout en étant un chanteur plutôt très populaire. Voilà, donc je voulais avoir votre avis.
Oui, bah moi je reconnais tout à fait que Sardou est un chanteur populaire qui est assez en phase avec la France profonde, cette France profonde d'ailleurs qui est en train de disparaître, et que je ne me suis jamais senti, moi, l'obligation de l'agresser comme certaines féministes stupides, notamment quand il avait fait cette chanson, qui est une de ses plus belles chansons en plus, qui est « Les villes de grande solitude ». En revanche, moi, je ne mélange pas, je dirais, la musique et la politique, et j'ai des goûts musicaux qui m'éloignent totalement de ça, et d'ailleurs, pour moi, la musique, c'est pour me sortir de ça. Et pour moi, franchement, je n'ai jamais écouté de Sardou. Pour moi, c'est quand même un peu un chanteur pour beauf, même si je ne veux pas être méprisant. Et je préfère même Johnny Hallyday, dans le genre que je trouve plus marrant et musicalement plus intéressant. Donc, j'ai rien contre Sardou, mais ça reste quand même pour moi un type de droite, quoi. Je veux dire, qui m'est pas très sympathique non plus, qui a l'air assez content de lui, assez arrogant. Et musicalement, c'est très professionnel, c'est pas mauvais. Mais je veux dire, je ne peux pas écouter ça... Quand j'écoute par ailleurs Brassens, Brel, même Nougaro, Ferré, je ne peux pas écouter du Sardou, quoi. Donc, et je vous dis, il y a une chanson que j'aime bien de lui. J'avais d'ailleurs voulu la mettre dans une compile que j'avais sortie au moment où j'avais fait mon film, qui était les villes de grande solitude, et d'ailleurs, il s'y est opposé. Voilà, donc Sardou, non. On peut peut-être rappeler au passage que je viens de prendre effectivement 40 jours de prison ferme qui sont confirmés, c'est-à-dire c'est définitivement jugé. Donc je ne sais pas là si je ne vais pas à un moment donné passer 40 jours en prison pour avoir osé tenir tête à une grosse lesbienne, effectivement. Voilà, donc voilà où on en est. Voilà où on en est en Suisse, voilà où on en est en Occident. On peut se prendre de la prison ferme quand on ose répondre à une grosse lesbienne qui produit sur vous un discours mensonger par voie de presse et que vous osez simplement lui répondre sur un mode en plus un peu ironique. Voilà. Donc, j'ai fui la France pour échapper à la prison et là, je me retrouve à prendre 40 jours de prison ferme en Suisse pour la raison que je viens d'évoquer. Je ne vais pas trop insister là-dessus, parce qu'il paraîtrait que ça tombe sous le coup de la loi maintenant. Donc, ma conclusion, c'est Poutine, vite.
Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899 25 22 66.